En guise de préambule au sujet qui nous occupe, je crois que il faut resituer, puisqu'on est à la fin d'un cycle, il convient de resituer le cadre un peu dans lequel tout ceci se déroule. Et nous terminerons donc par l'examen évidemment de cette étude qui occupe nos jours et nos nuits, mais rappeler d'où nous venons et où nous en sommes quand même est nécessaire, puisque nous sommes dans le cadre, nous sommes à la dernière étape de cette réforme territoriale qui aura finalement traversé le quinquennat de François Hollande, puisque dès son arrivée, des décisions et des mesures ont été prises qui venaient à l'encontre des décisions prises par son prédécesseur d'ailleurs. Et les 5 années, nous sommes maintenant à la fin d'un quinquennat qui se termine d'une façon pitoyable pour l'exécutif. Et donc, tout au long de ces 5 ans, on aura parlé, vous aurez entendu parler de la loi NOTRe, de ceci, de cela. Et donc, il convient de faire un petit commentaire. Les objectifs politiques qui étaient affichés par le président de la République, pourtant, étaient séduisants. Son prédécesseur, Sarkozy, avait affiché les mêmes objectifs, d'ailleurs. Quels étaient ces objectifs? Eh bien, il s'agissait de réduire le fameux millefeuille administratif, souvenez de ce terme, il fallait réduire le millefeuille administratif, il fallait réduire le nombre d'élus, et tout ceci, la conjonction des deux, devant déboucher sur une baisse de la dépense publique et donc des impôts. Donc réduction du millefeuille administratif, diminution du nombre des élus, et donc à la sortie, moins d'impôts, dépenses publiques minorées. Et on constate donc à la fin de ce quinquennat pitoyable, eh bien, les objectifs affichés, eh bien, nous avons exactement atteint le contraire des objectifs affichés au départ. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en fait, le millefeuille administratif ne s'est jamais aussi bien porté. On a rajouté des couches à toutes les autres couches qui existaient. Donc, je rappelle ces couches. Hein. Il y a donc dans notre paysage administratif national, il y a la commune, il y a les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les départements, les régions et les métropoles. Donc, on a rajouté dans ce paysage administratif, aucune des strates n'a diminué. Au contraire, on a rajouté la couche des métropoles. Si on regarde maintenant le nombre des élus, eh bien, le nombre des élus, il n'a pas diminué, il a même augmenté. Et vous m'avez déjà entendu dire ici, en prenant l'exemple du conseil départemental, qu'il y a, après la réforme des conseils départementaux, il y a davantage de conseils départementaux qu'il n'y avait avant de conseillers généraux. Le nombre des conseillers régionaux est exactement le même, on n'a pas gagné un seul élu de moins, puisqu'on a fait rajouter dans la réforme territoriale les élus d'une région et les élus de l'autre région, donc c'est la conjonction des deux. Donc on a davantage d'élus après la réforme qu'avant la réforme. Quant à la dépense publique, eh bien, la conclusion qui découle de ce que je viens de rappeler, c'est que la dépense publique continue à exploser dans notre pays. Bon, j'ai gardé, par exemple, à titre d'exemple très récent, encore une fois, un article de presse du Grand Sud là, qui fait référence à la dernière réunion du nouveau conseil régional, dont on ne sait même pas comment il s'appelle toujours, hein, cette Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, et on n'est pas sûr d'ailleurs, nos inquiétudes sont liées au fait que le mot de Pyrénées risque de disparaître, peut-être, de l'appellation à venir. On en reparlera lors d'une prochaine conférence de presse. Mais la région, eh bien, ce conseil régional qui n'a pas de titre est devenu une assemblée nomade, puisque les élus vont une fois à Montpellier, une fois à Toulouse, et pour la symbolique, le premier budget de leur exercice a été voté, donc il y a quelques jours, à Montpellier. Et alors comment faire quand on a une assemblée régionale de 158, près de 160 conseillers régionaux? Les hôtels régionaux précédents, de Midi-Pyrénées ou de Languedoc-Roussillon, sont trop petits. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces braves gens? Il a fallu aller louer un hall au palais au parc des expositions de Montpellier. Et le coût, c'est 60 000 euros, dépenses supplémentaires. Plus.
Sans compter les déplacements.
J'allais le dire, tu me coupes ma conclusion. Voilà. Ma chute, c'était celle-là, sans oublier évidemment l'explosion des frais de déplacement, puisque nous entendons nos collègues conseillers régionaux dire qu'ils sont constamment sur la route, ils vont à Montpellier, etc. Après, Donc vous voyez que on était parti d'objectifs qui étaient tout à fait défendables, mais que à la sortie, eh bien, ça se traduit par l'effet exactement contraire. Et puis, il convient également de revenir sur les conditions dans lesquelles cette réforme territoriale, qui était un grand projet et qui est donc un fiasco, c'était l'un des fiascos importants de l'actuel président de la République, eh bien, ça s'est fait dans des conditions, on peut parler de déni de la démocratie. De déni de la démocratie, on peut même parler de hold-up de la démocratie, puisque à aucun moment, s'agissant de la réforme de collectivité territoriale, qui intéresse au premier chef dans leur vie quotidienne nos concitoyens, à aucun moment les Français n'ont été consultés. Qu'il s'agisse du découpage et du redécoupage des cantons ou de la création du Minom, on n'a pas été consulté. Qu'il s'agisse du redécoupage des régions, on n'a pas été consulté. Les Français n'ont été consultés dans aucun des domaines de ces affaires qui les concernent au premier rang. Et donc, on peut ajouter, c'est plus les collectivités territoriales que le mauvais exemple vient également du Parlement. Le gouvernement n'admet même plus que le Parlement puisse faire son office, puisque dès qu'il y a une difficulté, eh bien, il a recours au 49-3. Ce qui fait que la démocratie, le peuple n'est jamais consulté pour aucun de ses choix, et le Parlement, où devrait se dérouler le débat, même lui, il est muselé, il ne peut plus s'exprimer. Voilà.